Bonsoir, ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. En tout cas, ici à Paris, il est 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
RFI Soir avec des reportages, des analyses et des commentaires. Tout de suite, le journal. En Allemagne, les suites de l'attentat sur le marché de Noël de Magdebourg qui a fait 5 tués, le suspect était mécontent du traitement réservé aux réfugiés saoudiens. À Mayotte, le bilan du cyclone s'élève maintenant à 35 morts et 2500 blessés, dont 78 grièvement. Ce décompte n'est encore que provisoire. En football, la Coupe de France en 32e de finale, Saint-Brieuc, 4e division, élimine Le Havre qui fait partie de l'élite puisqu'il est en Ligue 1.
RFI.
L'attentat sur le marché de Noël de Magdebourg. Le suspect aurait donc été mécontent du traitement des réfugiés saoudiens en Allemagne. Ce médecin saoudien de 50 ans a tué 5 personnes, en a blessé plusieurs dizaines d'autres, enfonçant sur elles avec sa voiture. Ceux qui ont frôlé la mort sont encore sous le choc quelques heures après cette attaque, comme ils en témoignent au micro de Pascal Thibault.
C'était terrible. On ne savait pas ce qui se passait. On était sous le choc. On ne savait pas où aller, comment s'enfuir. Des enfants hurlaient. Je les entendais crier « Papa, maman, aidez-moi !»
De nombreux témoins de l'attaque à la voiture Bélier sont sous le choc. Ils ont certes été épargnés, mais ont assisté à des scènes d'horreur. Les autorités parlent de plus de 200 personnes blessées par la course folle du véhicule sur un marché de Noël très visité vendredi soir.
D'un seul coup, on a entendu des bruits sourds, un moteur de voiture qui vrombissait, les gens hurlaient. Tout ça a eu lieu en quelques secondes. La voiture a foncé à côté de nous, poursuivie par la police.
La période de l'Avent, durant les 4 semaines avant Noël, est une période pleine de traditions en Allemagne, dont font partie les très nombreux marchés où l'on se retrouve en famille, entre amis ou entre collègues. Pour cette femme, une attaque comme celle de vendredi soir est tout simplement incompréhensible.
À côté de moi, un mort était allongé. On n'arrive pas à croire que juste avant les fêtes, quelque chose d'aussi paisible qu'un marché de Noël puisse être un lieu où on répand la terreur. C'est terrible.
Pour ces témoins qui ont échappé au pire, les scènes auxquelles ils ont assisté vendredi resteront pour longtemps un traumatisme. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En Autriche, la police a renforcé sa présence sur les marchés de Noël de la capitale. En novembre 2020, un membre du groupe État islamique avait tué par balle 4 personnes et blessé 23 autres personnes dans le centre-ville de Vienne. Un retour à la normalisation diplomatique en Syrie. Des nouvelles autorités, issues de groupes rebelles ayant renversé Bachar al-Assad, nomment Assad al-Shibani comme chef de la diplomatie. Il est chargé de la transition, également connu sous le nom de Zaïd al-Attar. Il a notamment rencontré les délégations allemandes et françaises qui se sont rendus à Damas cette semaine pour nouer des contacts avec les nouvelles autorités. Vincent Sorio.
Après 13 ans d'absence, le Qatar vient de rouvrir son ambassade en Syrie. Elle avait fermé dès juillet 2011, quelques mois après le début de la répression orchestrée par la famille Assad contre les manifestants pro-démocratie. Les Qatariens prennent la suite de la Turquie, première nation à reprendre pied à Damas. L'ambassadeur turc s'y est installé moins d'une semaine après la chute de l'ancien régime. Il y a quelques jours, l'Union européenne s'est dit prête, elle aussi, à suivre le mouvement et à ranimer sa mission diplomatique sur place. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les États-Unis n'ont pas encore sauté le pas, mais ces 4 pays ont envoyé des émissaires en Syrie afin de se familiariser avec le nouveau pouvoir. Le drapeau français a bien été hissé au fronton de l'ambassade de France à Damas, mais le bâtiment reste jusqu'ici fermé et le restera selon les autorités françaises tant que les critères de sécurité nécessaires à sa réouverture ne seront pas remplis.
Au Vatican, François condamne ce qu'il appelle la cruauté d'une frappe aérienne israélienne. Elle a causé la mort de 7 enfants d'une même famille palestinienne à Gaza, ce qui a été annoncé par la défense civile du territoire. Le pape qui sera en télétravail demain, François enrhumé, célébrera la prière dominicale de l'Angélus en ligne et non pas depuis la fenêtre du palais apostolique au Vatican. La semaine prochaine sera bien chargée pour le pape âgé de 88 ans. Il ouvrira mardi la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, marquant ainsi le début du jubilé de l'Église catholique, qui doit durer un an. Et le même jour, il doit célébrer la messe de Noël. À Mayotte, le bilan provisoire du cyclone s'élève maintenant à 35 morts et 2500 blessés, dont 78 grièvement atteints. Une semaine après le cyclone Chido, les habitants attendent encore de l'aide. Même s'il y a le retour de l'alimentation en eau courante dans le chef-lieu de l'archipel, les gens manquent de tout. Plusieurs stations-service ont repris leurs activités à travers le territoire. Les écoles, elles, ne pourront pas toutes rouvrir à la rentrée du 13 janvier. Et en métropole, une manifestation de soutien était organisée tout à l'heure à Marseille par des associations de Mahorais et plusieurs partis politiques de gauche. Mais il n'y avait que 200 personnes. Léopold Picot.
Sous l'arc de triomphe, on aperçoit quelques drapeaux de Mayotte, de LFI et du PS, quelques vêtements traditionnels mahorais. Pour Zalia, marseillaise et mahoraise, ce désintérêt est symptomatique en France métropolitaine.
Il y a plein de gens qui ne connaissaient même pas Mayotte, alors que ça fait partie de la France depuis longtemps. Ils viennent seulement de le découvrir, des personnes qui viennent le découvrir par rapport au cyclone. Là, en fait, j'aimerais vraiment qu'on voit Mayotte, que ça existe, que ça fait partie de la France, qu'on est français et qu'on devrait avoir les mêmes droits que partout en France.
Pour Asma, venir au rassemblement, ça reste important malgré tout. C'est un moyen de trouver du soutien dans la communauté mahoraise et comorienne la plus grande de métropole.
On vient soutenir la cause. On a des frères, des sœurs, des oncles, des tantes qui vivent actuellement en fait ce drame. Donc on veut qu'on soit entendu. On veut que les personnes, les politiques prennent leurs responsabilités. Je pense que les besoins essentiels, en fait, il faut y répondre en premier lieu. Et ensuite, voir les problèmes qui n'ont pas été résolus depuis plusieurs années, ça, c'est dans un deuxième temps.
Heureusement, les Marseillais se mobilisent autrement que dans les rassemblements. Déjà 6 camions de denrées alimentaires et d'habits ont été remplis grâce aux dons de citoyens. La mairie de la ville, de son côté, a débloqué une aide d'urgence de 50 000 euros. Léopold Picot, Marseille, RFI.
Et j'ajoute que les maillots portés par les joueurs de l'OM demain en Coupe de France contre Saint-Etienne seront vendus aux enchères afin de venir en aide aux sinistrés. C'était ce matin à 11h48 précise. Après 17 ans de chantier, dont 12 de retard, le réacteur nucléaire EPR de Flamanville a été raccordé au réseau électrique français. Ce réacteur de dernière génération arrivera à 100% de sa puissance à l'été prochain. Paul Watson, toujours aussi combatif, malgré 5 mois passés en prison. Le chef de Sea Shepherd vient de déclarer « Nous allons mettre un terme à la chasse baleinière dans le monde d'une manière ou d'une autre ». C'était Place de la République à Paris, quelques jours après avoir retrouvé la liberté.
Merci beaucoup pour coming out in the rain.
Merci d'être venu sous la pluie et pour tout votre soutien au cours des 5 derniers mois. Je pense qu'on a envoyé un message très fort au Japon, que le monde ne tolérera plus la chasse à la baleine illégale. Ce qui m'est arrivé a permis de braquer les projecteurs sur leurs activités, mais aussi sur les massacres illégaux de dauphins au large des îles Féroé. Ça a aussi été l'occasion de montrer du doigt Interpol. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais de tous les activistes qui sont victimes du détournement de la notice rouge d'Interpol pour des raisons politiques. On ne devrait pas être puni parce qu'on protège notre planète. Le vrai crime aujourd'hui, c'est le fait que le Japon continue de tuer des baleines en violant les lois internationales. Le Japon a été condamné par la Cour internationale de justice de La Haye en 2014. Les bateaux japonais n'ont plus le droit d'entrer dans les ports australiens. Nous, si. Il est donc très facile d'identifier qui sont les vrais criminels.
Paul Watson devant Marie Leveugle. Paul Watson que vous pouvez retrouver sur France 24, à qui il accorde une interview exclusive. La Colombie condamnée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Cela pour avoir tenté et renié les droits d'un peuple autochtone, les Huaa, sur les terres desquelles Bogota avait autorisé différents projets pétroliers, gaziers, miniers, et ce, à leur détriment, sans les consulter. Les explications de Simon Rosé.
Leur culture et leur environnement, leurs forêts ont été endommagées. Ils ont également été victimes de violences et d'intimidations. Les indigènes Huaa obtiennent cependant réparation devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. L'institution qui siège au Costa Rica reconnaît la culpabilité de la Colombie. En cause, 7 projets d'exploitation minière, pétrolière et gazière au sein de la réserve naturelle où vivent les Huaa au nord du pays. Cela fait 20 ans qu'ils ont été lancés sans consultation et au mépris des titres de propriété des autochtones. En conséquence, la Colombie va devoir régulariser la situation. Outre une indemnisation, Bogota va devoir attribuer des titres de propriété aux Huaa dans les régions où ils vivent. Les dégâts environnementaux devront également être atténués. Et enfin, la gouvernance de ces exploitations va devoir évoluer. Les Huaa auront en effet désormais voix au chapitre dans les processus de décision qui concernent les actions menées sur leur territoire.
Ce sont des milliers de personnes qui assistaient ce matin au lever du jour sur le site archéologique Stonehenge pour célébrer le solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord, quelques 4500 druides en costume folklorique, des chamans et des curieux sont réunis, étaient réunis sur les sites néolithiques du sud-ouest de l'Angleterre, perpétuant une tradition millénaire malgré l'absence du soleil caché par la brume. La mort d'une figure populaire de la télé française dans les années 2000, Marie-Thérèse Ordonez, plus connue sous le nom de Maïté. Elle avait 86 ans, elle avait animé avec gouaille des émissions culinaires comme La cuisine des mousquetaires. Il est 19h10, venons-en à l'actualité sportive. Salut Diouf, du football avec le choc de la soirée en Espagne, le FC Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid.
Pour le compte de la 18e journée de Liga, c'est peut-être un tournant dans la course au titre. Les deux équipes comptent le même nombre de points. Après des débuts quasi parfaits, les Blaugrana commencent à caler en championnat. Ils n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. Les joueurs d'Hansi Flick ont notamment perdu contre Leganés au dernier match et ils s'étaient inclinés contre Las Palmas il y a quelques semaines, à chaque fois à domicile. Mais l'entraîneur a préfère relativiser avant ce choc contre l'Atlético.
Lorsque nous avons débuté notre préparation au début de l'été, si quelqu'un m'avait dit qu'au 20 décembre nous serions premiers en Liga et deuxième en Ligue des Champions, j'aurais signé tout de suite. Nous avons perdu des points et ça a été compliqué sur ces derniers matchs face à Leganés, face à Las Palmas. Ce sont des adversaires que l'on doit battre, mais je dois les respecter et avouer qu'ils ont mérité leur victoire. Ils ont été meilleurs que nous.
Barça Atlético, c'est à 20h, temps universel.
Et du football, mais en Angleterre, ça va toujours aussi mal hein, pour Manchester City.
Et les Citizens se sont inclinés 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa cet après-midi. La série noire se poursuit pour les hommes de Pep Guardiola. Sur les 12 derniers matchs, ils ont subi 9 défaites, ont fait 2 matchs nuls pour une seule victoire. L'attaquant norvégien de City, Erling Haaland, apparaissait abattu à la fin de la rencontre.
Bien sûr, nous vivons une saison compliquée en championnat. Nous savons à quel point la confiance est importante dans ces moments. Cette période nous affecte profondément, c'est humain. Nous devons rester positifs, même si c'est difficile.
D'autres rencontres ont eu lieu dans l'après-midi. Newcastle s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse d'Ipswich Town sur le score de 4-0. West Ham a fait match nul contre Brighton, 1-0. Et Nottingham Forest, la surprise de ce championnat anglais, a battu Brentford 2-0.
Pas de championnat de foot de Ligue 1 ce week-end, mais la Coupe de France. Hein.
Et son lot de surprises, l'AS Khan, pensionnaire de National 2, qui compte dans ses rangs l'ancien international sénégalais Cheikh Ndoye, est sorti vainqueur de sa confrontation face à un club de Ligue 2, Grenoble. Le club de Ligue 2 qui est Grenoble, score 3-2. Toulouse l'a échappé belle face aux amateurs des Hauts-Lyonnais. Et vous en parliez dans vos titres, les joueurs de Ligue 1 qui sont tombés ce soir, c'est Le Havre, qui est le premier club de l'élite à passer à la trappe. Ils se sont inclinés sur la pelouse du stade Briochin sur le score 1-0.
Et puis de la boxe pour finir, il y aura une belle affiche ce soir en Arabie Saoudite.
Une confrontation entre deux poids lourds, Oleksandr Usyk contre Tyson Fury, 26 kilos séparent les deux hommes sur la balance. Riyad sera la capitale de la boxe ce soir. Sachez que 3 ceintures sont en jeu, toutes détenues par Usyk. Début du combat aux alentours de 22h, temps universel.
C'est noté, salut Diouf.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
La Syrie avec 181 journalistes tués depuis 13 ans. C'est le bilan du régime de Bachar al-Assad depuis la révolution jusqu'à sa chute. Bilan donné par Reporters sans frontières. L'ONG estime qu'après l'Érythrée, la Syrie est devenue le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. Beaucoup ont fui leur pays pour se réfugier en France. À Paris, Théo Renaudon.
Là, on est à Radio Rosanna. C'est une radio créée il y a 10 ans à Paris par des journalistes syriens exilés. Aujourd'hui, elle est suivie par des milliers d'auditeurs. Celui qu'on entend là, c'est Mohamed Alaj. La chute de Bachar, pour lui,
c'est le plus grand moment de ma vie, je pense. C'est la libération du journalisme aussi, c'est pas la libération de Syrie. Je suis quitté la Syrie en 2013. J'étais une journaliste citoyen, militant citoyen.
Pendant la révolution ?
Pendant la révolution contre le régime de Bachar.
Vous filmiez, vous manifestiez ?
Manifester, filmer, écrire les infos sur les réseaux sociaux, juste pour Raqqa.
C'était dangereux, ça ne plaisait pas au régime.
Très très dangereux. Et ils cherchent toujours qui a filmé. On ne travaille pas avec notre nom. Moi, je m'appelle Guevara de Raqqa. C'est pas Mohamed.
Beaucoup de prisons ont été ouvertes, beaucoup de prisons du régime. Est-ce que des journalistes ont été libérés de ces prisons? Est-ce que vous avez des nouvelles de certains?
Non. Personne sortir.
Ils ont été quoi?
Je sais pas. On peut pas dire ils sont morts. Les familles de eux, ils sont pas acceptés de dire ils sont morts. Pas de nouvelles pour toutes les journalistes. Ils sont en prison de Bachar al-Assad.
Comment les HTS, donc ceux qui sont en tête de la coalition au pouvoir aujourd'hui, traitent les journalistes?
Il y a des lignes rouges. Par exemple, la corruption, les libertés de monde, les libertés de femmes. Mais c'est pas très mal comme la régime de Bachar al-Assad.
Est-ce que vous, Mohamed, aujourd'hui, vous comptez rentrer en Syrie pour faire votre travail un jour de journaliste?
Un jour, oui, mais maintenant, non.
Pourquoi?
Bachar al-Assad est tombé. Mais la liberté de journalisme, je ne suis pas sûr que je peux travailler en Damas comme ici.
Même s'il ne revient pas en Syrie, Mohamed, sourire aux lèvres, se dit très fier de sa génération qu'il appelle lui-même.
La génération de la révolution.
Voilà, l'actualité des médias. C'est aussi un vieux monsieur de la presse française qui fête son anniversaire. Le journal Le Monde a 80 ans. Et le quotidien, Amaury de Rochegonde, occupe une place singulière dans la presse française.
Oui, alors, Le Monde, c'est aujourd'hui un journal consulté essentiellement sur le numérique et diffusé à 500 000 exemplaires. Mais en 1944, c'est une feuille recto verso mise en page dans les locaux de l'ancien journal Le Temps, rue des Italiens. On y compte 40 journalistes contre 540 aujourd'hui. Son fondateur, Hubert Boeuf-Méry, est un résistant qui est aussi un ancien directeur d'études de l'école des cadres d'Uriage qui formait l'élite sous Vichy. C'est lui que le général de Gaulle va choisir pour créer un quotidien de référence en se disant qu'il sera ainsi un allié. Or, Hubert Boeuf-Méry va gagner son indépendance en s'opposant à De Gaulle lorsqu'il est au pouvoir, même s'il a pu se montrer plus compréhensif sur sa politique étrangère. Et au fond, c'est un principe qui n'a pas varié. Plus Le Monde s'est trouvé proche des pouvoirs en place, notamment après l'élection de Mitterrand, moins bon il a été.
Et aujourd'hui, est-ce que Le Monde est toujours aussi indépendant ?
Il a bien failli ne plus l'être en 2011 lorsqu'il a été racheté par un trio d'hommes d'affaires, dont Xavier Niel, que l'on sait proche de Macron. Mais la société des rédacteurs du Monde a toujours gardé un droit de blocage qui a permis au quotidien de se protéger de tout interventionnisme. La collectivité des journalistes doit même apporter son agrément à tout changement d'actionnaire et du directeur. Il faut dire aussi que Xavier Niel, qui n'a pas été malmené par Le Monde, lui a apporté les moyens de son indépendance. Avec depuis avril une nouveauté, c'est le Fonds pour l'indépendance de la presse qui contrôle Le Monde. Ce fonds prévoit d'ailleurs une enveloppe de 200 000 euros pour soutenir des projets de journalisme.
Et puis Le Monde est critiqué, il doit donc, Amaury, se défendre de certains choix éditoriaux.
Et oui, on l'a vu jeudi avec un article du Figaro signé Eugénie Bastier dénonçant un malaise grandissant sur le traitement d'Israël dans le journal, je cite, en cause le fait que le chef adjoint du service international, Benjamin Barthes, ancien prix Albert Londres, est l'époux d'une Palestinienne rencontrée à Ramallah lorsqu'il était correspondant du journal. Cela suffit au Figaro pour reprendre une campagne à laquelle nous a habitué plutôt CNews, avec le soupçon d'antisémitisme, voire de complotisme, dont rendrait compte un mur au Monde avec un autocollant « Stop génocide ». En réalité, Le Monde a eu un traitement équilibré du conflit, rendant compte de l'horreur du 7 octobre et documentant le massacre en cours depuis à Gaza. Eugénie Bastier, ancienne de CNews, est elle-même apparue dans un article du Monde en soutien à son directeur Alexis Brézé, après une crise au Figaro liée à son refus de choisir le front anti-RN.
Analyse et commentaire d'Amaury de Rochegonde à propos du journal Le Monde qui fête donc ses 80 ans. Feuilletons à présent un livre qui s'intéresse à cette organisation internationale regroupant les États du monde entier dans le défi de la paix, remodeler les organisations internationales, publié aux éditions Armand Collin. Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde diplomatique justement, raconte, analyse et critique L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, puisqu'il s'agit d'elle, l'ONU qui s'efforce de préserver la paix mondiale. Anne-Cécile Robert en dit plus à Sylvie Noël.
Anne-Cécile Robert, bonjour.
Bonjour.
Dans Le défi de la paix, vous écrivez que le martyr des populations de Gaza engage le pronostic vital de l'organisation internationale. Pourtant, dans le même temps, vous développez l'idée qu'il faut remodeler ces mêmes organisations internationales face au chaos qui déstabilise actuellement l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. Vous pensez réellement que les organisations internationales telles que l'ONU, si décriées ces derniers temps pour son impuissance, ont encore un rôle à jouer ?
Les organisations internationales sont sous le feu de la critique parce que sur un certain nombre de crises très importantes, comme ce qui se passe à Gaza, ou on pourrait même évoquer à nouveau l'Ukraine ou la Syrie, elles se révèlent impuissantes. Mais il ne faut pas se tromper de coupable, tant sur Gaza que sur l'Ukraine. L'ONU a travaillé, fait des choses. Par exemple, le peu d'aide humanitaire qui rentre à Gaza, c'est l'ONU, et y compris en Ukraine. Qui vaccine les enfants, les petits Palestiniens ? C'est l'Organisation mondiale de la santé.
Alors, mais en creux, la critique qu'on fera à l'ONU, c'est que si elle développe ses activités humanitaires, c'est aussi parce qu'elle n'a pas réussi à ramener la paix.
Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, à ceci près que dans des tas d'autres crises, en Afrique, par exemple, il y a quelques jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a, par exemple, voté une résolution pour des sanctions contre les chebabs somaliens. Elle travaille. On note, parce que les échecs sont spectaculaires, mais dans beaucoup de situations, l'ONU fonctionne. Ces casques bleus sont sur le terrain, assurent des tas de missions. Donc il faut se rappeler que derrière certains échecs spectaculaires, il y a un vrai travail de paix et que par ailleurs, les échecs sont moins dus à l'ONU qu'à certains États qui se comportent très mal.
Alors effectivement, vous dites l'exacerbation décomplexée des logiques de puissance que l'on observe actuellement est inédite depuis 1945. Vous citez même Hassan Salamé qui parle d'une dérégulation du recours à la force. Qu'entend-il ?
C'est le problème majeur. L'une des fonctions de l'ONU est de fixer un cadre pour limiter la guerre, voire l'empêcher. Et peu ou prou, même s'il y a toujours eu des guerres sur la planète, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, depuis 1945, de conflits majeurs, notamment entre les grandes puissances. Et malheureusement, depuis quelques années, on s'aperçoit que les grandes puissances qui devraient montrer l'exemple et stabiliser le système mondial sont en fait elles-mêmes factrices de troubles. Parce qu'elles ont relégitimé un usage de la guerre d'une manière brutale, si on pense à la Russie en Ukraine, où elles le cautionnent, ce recours à la force, à la guerre, comme les États-Unis en Irak en 2003, ou en empêchant toute sanction contre le régime israélien qui commet aujourd'hui des crimes de guerre à Gaza et aussi au Liban.
Alors justement, la grande question, quelles peuvent être les perspectives pour faire évoluer notamment l'ONU ? Vous évoquez trois scénarios, l'effondrement, le pourrissement ou le renouveau, et dans ce cas, deux maîtres mots, représentativité et efficacité.
C'est vrai qu'il y a un risque aujourd'hui d'effondrement du système multilatéral et l'un des facteurs d'incertitude, c'est l'élection de Donald Trump, qui n'est pas, c'est un secret pour personne, un ami de l'ONU à laquelle il menace de couper les vivres. Mais vous avez raison de souligner que l'une des clés, ce sera sa représentativité, parce qu'effectivement, le système onusien est très marqué par la Seconde Guerre mondiale, avec un rôle de ceux qui étaient les grands vainqueurs face à l'Allemagne nazie et au Japon. Mais aujourd'hui, cela ne correspond plus aux équilibres de la planète et il faut ouvrir le système onusien, notamment le Conseil de sécurité.
Et ce qui nécessitera une révision de la charte.
Alors là, il faudrait une révision de la charte, c'est vrai, mais on peut aussi avoir de l'espoir sur ce terrain, puisque pendant très longtemps, tout était bloqué, personne, et en particulier pas les 5 membres permanents, ne voulaient ouvrir le Conseil de sécurité, et là, ça y est, y compris les Américains admettent qu'il va falloir ouvrir des postes de membres permanents, et ils ont clairement dit que 2 pays africains pourraient bénéficier de sièges de membres permanents.
Merci Anne-Cécile Robert.
Merci.
Qui publie « Remodeler les organisations internationales », un livre édité par Armand Collin. Autre livre, ceux proposés par la 3e édition du Salon du Livre Féminin à Dakar. À l'origine de cette rencontre, le collectif « Les Cultures L », qui cherche à promouvoir les industries culturelles au féminin, au Sénégal et plus largement en Afrique. Juliette Dubois s'y est rendue à ce salon pour RFI.
Au programme ce vendredi matin, un panel sur les femmes et les migrations clandestines, ainsi que la présentation d'un recueil de nouvelles. La romancière et scénariste Amina Sek coordonne les derniers détails. Avec son collectif Les Culturels, c'est elle qui a créé le salon, en partant de sa propre expérience.
Moi, en tant que romancière, j'arrive dans ce milieu, mais bon, je ne suis pas au courant des activités littéraires, des événements littéraires, comme un salon du livre. Et quand je suis au courant, j'y vais en tant que spectatrice, mais pas en tant qu'actrice. Les femmes n'étaient pas mises en avant, ou bien peu de femmes étaient mises en avant, et surtout c'était des femmes qui sont déjà connues, qui ont publié des livres depuis les années 80.
Renouveler la littérature féminine et proposer de nouveaux noms en dehors des classiques comme Mariam Abba. Au salon, de nombreux stands présentent les ouvrages de jeunes autrices, comme celui de la maison d'édition L'Armatan. Son responsable communication, Papa Sengandiaï, reçoit de plus en plus de manuscrits écrits par des femmes.
On reçoit beaucoup de manuscrits chez les jeunes filles, surtout ceux qui écrivent les romans, les nouvelles, la poésie. Les thèmes généraux, c'est le féminisme, ça revient toujours. C'est l'affirmation surtout de la femme. Elle écrit aussi sur la tradition.
Le pays invité cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Plusieurs écrivaines ont fait le déplacement, comme Nania Koulibaly. Secrétaire de direction, elle a publié deux ouvrages. Le premier s'appelle Naïma.
Le thème est toujours d'actualité, c'est sur le mariage forcé. C'est pas seulement dans mon pays, puisque lors de mes dédicaces, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de femmes d'autres pays qui m'ont confirmé qu'effectivement, c'est une situation qui existe encore.
Amina Sek veut que le salon soit un espace où les femmes se sentent à l'aise pour prendre la parole et partager leur vécu.
Beaucoup ont décliné, je ne sais pas pourquoi, parce que la plupart m'ont dit que non, je ne sais pas trop parler en public. Je pense que c'est une occasion aussi pour qu'on puisse se retrouver, parce qu'on n'arrête pas également de dire que les femmes n'arrêtent pas de se plaindre dans leur production littéraire. On ne se plaint pas, on raconte nos vies.
Un lieu de rencontre et pourquoi pas de nouvelles opportunités. C'est en tout cas ce que souhaite l'Ivoirienne Assita Sidibé.
Qu'on ait de belles âmes, qu'on ait des éditeurs, pourquoi pas? Parce qu'il arrive que des écrivaines d'autres pays soient produites par des maisons d'édition en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire l'inverse?
10 femmes sont également formées en résidence sur la création et l'écriture de nouvelles et 2 prix littéraires seront remis. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Paris, 89 FM.
Paris, ou au théâtre de la ville, est à écouter un quatuor qui joue Tangewada. Il s'agit d'un concert de tango, mais sans danseur et en marge des habituelles ritournelles. Le piano y tient donc une large place, comme l'explique Romain Descharmes.
J'étais pas du tout habitué à ce genre de musique. Moi, je joue exclusivement du Mozart, du Beethoven et du Brahms et du Ravel. J'ai appris un peu sur le tas. Et du coup, après, c'est une façon d'utiliser le piano et d'utiliser un peu la musique, de jouer du piano un peu différente de ce qu'on apprend dans les conservatoires. Ça sert un petit peu aussi dans le classique. C'est-à-dire le classique sert un petit peu la façon de jouer le tango, et le tango sert la façon de jouer le classique.
Du piano, mais aussi de la contrebasse, du violon et bien sûr le bandeau néon de Juanro Mozzolini.
Le bandeau néon, c'est un instrument allemand mais qui est arrivé en Argentine et qui est devenu un tout petit peu la diva du tango. C'est cette couleur-là qu'on attache au tango à tel point que notre instrument est totalement associé. Quand on joue du bandeau néon, on croit que c'est forcément du tango alors qu'on peut jouer du bandeau néon dans plein de répertoires différents.
Ce concert de tango dissocie carrément la musique de la danse en l'élevant au rang de grande musique, n'en déplaise aux puristes.
C'est des choses nouvelles à tel point que Piazzolla avait déjà, en 1960, créé la polémique en disant « Moi, ce que je fais, c'est le tango nuevo, c'est le nouveau tango ». Et il avait dit « Oui, mais les anciens ne souhaitent plus écouter cette nouvelle musique, il faut la réformer, etc. » Moi, j'aime pas dire ça, je suis conscient de l'héritage. Dans la plupart de mes gestes, c'est la musique que j'ai le plus pratiquée qui ressort. Donc je suis convaincu que c'est du tango et en même temps, je connais certains fanatiques qui me diront que c'est pas du tango. Et on a tous les deux raisons en fait.
Voilà donc du tango contemporain à écouter au Théâtre de la Ville à Paris avant une tournée en province. À suivre sur Radio France Internationale, l'actualité en Afrique.
Tout à l'heure sur RFI,
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous donnons la parole à 5 jeunes journalistes africains spécialisés dans l'économie. Basés à Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou et Kinshasa, ils nous font revivre 2024. Les bouleversements au Sénégal, la crise entre l'AES et la CDAO, les défis miniers et énergétiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
100% création, Maria Afonso.
Retournons à Notre-Dame de Paris avec 100% création. Ce dimanche, découvrez les lustriers avec Régis Mathieu et son atelier Mathieu Lustrerie. Ils ont restauré les luminaires de Notre-Dame de Paris pour qu'ils brillent à nouveau de mille feux sous les voûtes de la cathédrale. Retrouvez-nous à 7h55 et 12h54, temps universel, sur RFI.